Le Capital, livre 1er, section 8, chapitre 29. La genèse du fermier capitaliste. Après avoir considéré la création violente d'un prolétariat sans feu ni lieu, la discipline sanguinaire qui le transforme en classe salariée, l'intervention honteuse de l'État favorisant l'exploitation du travail et partant l'accumulation du capital, du renfort de sa police, nous ne savons pas encore d'où viennent originairement les capitalistes. Car il est clair que l'expropriation de la population des campagnes n'engendre directement que de grands propriétaires fonciers. Quant à la genèse du fermier capitaliste, nous pouvons pour ainsi dire la faire toucher du doigt, parce que c'est un mouvement qui se déroule lentement et embrasse des siècles. Les serfs, de même que les propriétaires libres, grands ou petits, occupaient leurs terres à des titres de tenure très divers. Ils se trouvèrent donc, après leur émancipation, placés dans des circonstances économiques très différentes. En Angleterre, le fermier apparaît d'abord sous la forme du bailiff, bailli entre parenthèses, serf lui-même. Sa position ressemble à celle du Willicus de l'ancienne Rome, mais dans une sphère d'action plus étroite. Pendant la seconde moitié du XIVe siècle, il est remplacé par le fermier libre, que le propriétaire pourvoit de tout le capital requis, semences, bétail et instruments de labour. Sa condition diffère peu de celle des paysans, si ce n'est qu'il exploite plus de journaliers. Il devient bientôt métayer, colon parcière. Une partie du fonds de culture est alors avancée par lui, l'autre par le propriétaire. Tous deux se partagent le produit total suivant une proportion déterminée par contrat. Ce mode de fermage, qui s'est maintenu si longtemps en France, en Italie, etc., disparaît rapidement en Angleterre pour faire place au fermage proprement dit, où le fermier avance le capital, le fait valoir en employant des salariés, et paie au propriétaire, à titre de rente foncière, une partie du produit net annuel, à livrer en nature ou en argent, suivant les stipulations du bail. Tant que le paysan indépendant et le journalier, cultivant en outre pour son propre compte, s'enrichissent par leur travail personnel, la condition du fermier et son champ de production restent également médiocres. La révolution agricole des 30 dernières années du XVe siècle, prolongée jusqu'au dernier quart du XVIe siècle, l'enrichit aussi vite qu'elle appauvrit la population des campagnes. Note de bas de page. Ouvrez les guillemets. Les fermiers, dit Harrison dans sa description de l'Angleterre, qui autrefois ne payaient que difficilement 4 livres sterling de rente, en paient aujourd'hui 40, 50, 100, et croient avoir fait de mauvaises affaires si à l'expiration de leur bail, ils n'ont pas mis de côté une somme équivalente au total de la rente foncière acquittée par eux pendant 6 ou 7 ans. Fermez les guillemets. Fin de la note de bas de page. Donc, tant que le paysan indépendant et le journalier cultivant en outre pour son propre compte s'enrichissent par leur travail personnel, la condition du fermier et son champ de production restent également médiocres. La révolution agricole des 30 dernières années du XVe siècle, prolongée jusqu'au dernier quart du XVIe, l'enrichit aussi vite qu'elle appauvrit la population des campagnes. L'usurpation des pâtures communales, etc., lui permet d'augmenter rapidement et presque sans frais son bétail, dont il tire dès lors de gros profits par la vente, par l'emploi comme bête de somme, et enfin par une fumure plus abondante du sol. Au XVIe siècle, il se produisit un fait considérable, qui rapporta des moissons d'or aux fermiers comme aux autres capitalistes entrepreneurs. ce fut la dépréciation progressive des métaux précieux et, par conséquent, de la monnaie. Cela abaissa à la ville et à la campagne le taux des salaires, dont le mouvement ne suivit que de loin la hausse de toutes les autres marchandises. Une portion du salaire des ouvriers ruraux entra dès lors dans les profits de la ferme. L'enchérissement continu du blé, de la laine, de la viande, en un mot de tous les produits agricoles, grossit le capital argent du fermier sans qu'il y fût pour rien, tandis que la rente foncière qu'il avait à payer diminua en raison de la dépréciation de l'argent survenue pendant la durée du bail. Et il faut bien remarquer qu'au XVIe siècle, les baux de ferme étaient encore, en général, à long terme, souvent à 99 ans. Le fermier s'enrichit donc à la fois aux dépens de ses salariés et aux dépens de ses propriétaires. Note de bas de page. L'influence que la dépréciation de l'argent exerça au XVIe siècle sur diverses classes de la société a été très bien exposée par un écrivain de cette époque dans « A compendious or brief examination of certain ordinary complaints of diverse of our countrymen in these our days » by W. S. Gentleman, London, 1581. La forme dialoguée de cet écrit contribua longtemps à le faire attribuer à Shakespeare, si bien qu'en 1751, il fut encore édité sous son nom. Il a pour auteur William Stafford. Dans un passage, le chevalier, Knight entre parenthèses, raisonne comme suit. Le chevalier, ouvrez les guillemets. Vous, mon voisin le laboureur, vous, maître mercier, et vous, brave chaudronnier, vous pouvez vous tirer d'affaire ainsi que les autres artisans. Car, si toutes choses sont plus chères qu'autrefois, vous élevez d'autant le prix de vos marchandises et de votre travail. Mais nous, nous n'avons rien à vendre sur quoi nous puissions nous rattraper de ce que nous avons à acheter. » Fermez les guillemets. Ailleurs, le chevalier interroge le docteur. Ouvrez les guillemets. « Quels sont, je vous prie, les gens que vous avez en vue? Et d'abord ceux qui, selon vous, n'ont rien ici à perdre ?» Fermez les guillemets. Le docteur. Ouvrez les guillemets. « J'ai en vue tous ceux qui vivent d'achat et de vente, car s'ils achètent cher, ils vendent en conséquence. » Fermez les guillemets. Le chevalier. Ouvrez les guillemets. Et quels sont surtout ceux qui, d'après vous, doivent gagner ? Fermez les guillemets. Le docteur. Ouvrez les guillemets. Tous ceux qui ont des entreprises ou des fermes à ancien bail. Car, s'ils paient d'après le taux ancien, ils vendent d'après le nouveau. C'est-à-dire qu'ils paient leurs terres bon marché et vendent toutes choses à un prix toujours plus élevé. Fermez les guillemets. Le chevalier. Ouvrez les guillemets. Et quels sont les gens qui, pensez-vous, auraient dans ces circonstances plus de pertes que les premiers noms de profit ? Fermez les guillemets. Le docteur ouvre les guillemets. Tous les nobles, gentilshommes, et tous ceux qui vivent soit d'une petite rente, soit de salaire, ou qui ne cultivent pas le sol, ou qui n'ont pas pour métier d'acheter et de vendre. Fermez les guillemets. Fin de la note de bas de page. Donc, au XVIe siècle, il se produisit un fait considérable qui rapporta des moissons d'or aux fermiers, comme aux autres capitalistes entrepreneurs. Ce fut la dépréciation progressive des métaux précieux et, par conséquent, de la monnaie. Cela abaissa à la ville et à la campagne le taux des salaires, dont le mouvement ne suivit que de loin la hausse de toutes les autres marchandises. Une portion du salaire des ouvriers ruraux entra dès lors dans les profits de la ferme. L'enchérissement continu du blé, de la laine, de la viande, en un mot, de tous les produits agricoles, grossit le capital argent du fermier sans qu'il y fût pour rien,
tandis que la rente foncière qu'il avait à payer diminua en raison de la dépréciation de l'argent survenue pendant la durée du bail. Et il faut bien remarquer qu'au XVIe siècle, les baux de ferme étaient encore, en général, à long terme, souvent à 99 ans. Le fermier s'enrichit donc à la fois aux dépens de ses salariés et aux dépens de ses propriétaires.
Dès lors, rien d'étonnant que l'Angleterre possédât, à la fin du XVIe siècle, une classe de fermiers capitalistes très riche pour l'époque.
Note de bas de page. Entre le seigneur féodal et ses dépendants à tous les degrés de vassalité, il y avait un agent intermédiaire qui devint bientôt homme d'affaires et dont la méthode d'accumulation primitive, de même que celle des hommes de finance placés entre le trésor public et la bourse des contribuables, consistait en concussions, malversations et escroqueries de toutes sortes. Ce personnage, administrateur et percepteur des droits, redevances, rentes et produits quelconques dus au seigneur, s'appela en Angleterre « steward », en France « régisseur ». Ce régisseur était parfois lui-même un grand seigneur. On lit par exemple, dans un manuscrit original publié par Monteil, ouvrez les guillemets. C'est le conte que messire Jacques de Thorennes, chevalier Chastelain sort Besançon, rente est seigneur, tenant les comptes à Dijon pour monseigneur le duc et comte de Bourgogne, des rentes appartenant à ladite Chastelny, depuis 25e jour de décembre 1360 jusqu'au 28e jour de décembre 1360, etc. Fermez les guillemets, ouvrez la parenthèse, Alexis Monteil, Histoire des matériaux manuscrits, fermez la parenthèse. On remarquera que dans toutes les sphères de la vie sociale, la part du lion échoit régulièrement à l'intermédiaire. Dans le domaine économique, par exemple, financiers, gens de bourse, banquiers, négociants, marchands, etc., écrèment les affaires. En matière civile, l'avocat plume les partis sans les faire crier. En politique, le représentant l'emporte sur son commettant, le ministre sur le souverain, etc. En religion, le médiateur éclipse Dieu pour être à son tour supplanté par les prêtres, intermédiaires obligés entre le bon pasteur et ses ouailles. En France, de même qu'en Angleterre, les grands domaines féodaux étaient divisés en un nombre infini de parcelles, mais dans des conditions bien plus défavorables aux cultivateurs. L'origine des fermes ou terriers y remonte au XIVe siècle. Ils allèrent en s'accroissant et leur chiffre finit par dépasser 100 000. Ils payaient en nature ou en argent une rente foncière variant de la 12e à la 5e partie du produit. Les terriers, fiefs, arrière-fiefs, etc., suivant la valeur et l'étendue du domaine, ne comprenaient parfois que quelques arpents de terre. Ils possédaient tous un droit de juridiction qui était de 4 degrés. L'oppression du peuple assujetti à tant de petits tyrans était naturellement affreuse. D'après Monteil, il y avait alors en France 160 000 justices, là où aujourd'hui 4 000 tribunaux ou justices de paix suffisent. Donc, dès lors, rien d'étonnant que l'Angleterre possédât à la fin du XVIe siècle une classe de fermiers capitalistes très riche pour l'époque.